Les micros de fréquence oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquencier vous fait revivre tout l'été, planète en fait. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en Fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.
Bien évidemment, sur le site de Planète en Fête à Saint-Pierre-des-Nids, il est logique qu'on s'intéresse aussi au sujet d'actualité et d'actualité forte, prégnante en matière de menaces sur les territoires et entre autres de menaces par rapport à la biodiversité ou alors tout simplement l'utilisation de fonds publics pour des usages qui peuvent être contestés. Évidemment, région des Pays de la Loire, nous connaissons tous les débats qu'il y a eu dans la Sarthe, par exemple, par rapport à l'implantation de la ligne LGV. Mais vous le savez bien, le débat vraiment régional et national important, c'est celui qui tourne autour de Notre-Dame-des-Landes. Cette volonté d'implanter un nouvel aéroport dans une zone rurale, quelque part, en gros, à mi-chemin, on va résumer, entre Nantes et Rennes. Et évidemment, en utilisant un certain nombre de terres agricoles. Julien Durand, vous êtes porte-parole donc des personnes qui sont contre cette implantation et vous-même vous en avez une bonne raison puisque vous êtes paysan sur le site de Notre-Dame-des-Landes, même si vous n'exercez plus actuellement.
Je suis en retraite, oui, mais disons que depuis 1973, en tant que militant paysan maintenant à la Confédération paysanne, le projet étant sorti en 1973 avec une zone d'aménagement différé, nous nous sommes préoccupés de l'avenir des terres agricoles, du maintien de l'activité agricole en termes d'emploi sur la zone.
Souvent, l'auditeur ignore que depuis 1973, il y avait un projet dans les tiroirs par rapport à ça.
Effectivement, en 1973, une zone d'aménagement différé a été créée sur 1200 hectares avec l'idée de faire un aéroport horizon 1985 pour le fameux avion, le Concorde, puisque c'était dans les années...
Et le Concorde ayant disparu.
Malheureusement, en 2000, le même Concorde a eu un accident en septembre 2000 à Gonesse. Et l'idée de Jospin, Premier ministre, et Hérault, député maire de Nantes, de ressortir du tiroir le dossier Notre-Dame-des-Landes pour en faire un troisième aéroport parisien.
Alors maintenant, sur cet aéroport Notre-Dame-des-Landes, il y a une cristallisation très forte de volonté d'un certain nombre d'élus, de collectivités, de l'État de l'implanter. Et en face, il y a une très forte opposition qui s'est structurée, organisée, manifestée. On en est où aujourd'hui dans les oppositions entre les pros et les anti?
Bon, la résistance à Notre-Dame-des-Landes, un petit peu brièvement d'historique quand même. En 2000, que le projet est ressorti, l'ADECA, qui est l'Association de défense des paysans, mais purement corporatiste, qui était en veilleuse, a été remis en activité. Et en parallèle, l'ACIPA, l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées, a été créée. Aujourd'hui, une coordination des opposants qui regroupe des partis politiques, des associations, qui représentent à peu près 50 organisations, se réunit tous les mois, la CIPA aussi en parallèle, puisque nous avons quand même une structuration d'opposants, puisque la CIPA regroupe autour de plus de 3500 adhérents. Donc nous sommes présents, puisque nous sommes ici à Planète en fait, à l'appel des collectifs de soutien de Mayenne. Et la planète, ça concerne un projet de transport, nous y sommes sensibles. Et en tant que paysans, nous avons structuré la résistance sur les termes de conservation des terres agricoles, mais aussi sur la sobriété énergétique, puisque nous sommes face à un virage de la société le système de consommation est remis en cause et on retrouve l'aspect financier à travers le projet Notre-Dame-des-Landes, l'aspect de l'aspiration de l'ensemble des citoyens pour un virage énergétique, puisque aujourd'hui on nous dit qu'il faut faire des économies. Nous sommes face à une crise économique, il faut faire des choix. La France, c'est un petit pays, c'est pas le rêve américain des années 85, puisque l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes faisait appel au rêve de conquérir l'Amérique avec le Concorde. Aujourd'hui, soyons raisonnables, il y a plus urgent à faire en matière d'économie budgétaire, puisque c'est aussi une justice sociale qui est contestée à travers le projet de Notre-Dame-des-Landes. Il faut faire des choix, et Notre-Dame-des-Landes doit en faire partie.
Alors, concrètement, les forces en présence, réexpliquez-nous un peu quelles sont les positions du Conseil général, de la région, de l'État.
Le projet de Notre-Dame-des-Landes est un projet vraiment complexe, puisque en termes de porteurs du projet, ce sont des élus de la région Pays de Loire et locaux comme Nantes Agglomération qui ont poussé le projet. Le projet aujourd'hui, il est devenu un projet d'État, et donc... En tant que l'État, a son mot à dire. Nous avons eu une enquête d'utilité publique, certes, avec des débats soi-disant démocratiques, mais dont l'expression des opposants n'a jamais été prise en compte. Et à partir de ce moment-là, nous avons quand même été assez persévérants et respectueux de la démocratie, puisque à chaque étape d'une consultation, nous avons joué le jeu. Nous n'avons rien empêché. Nous avons participé activement au débat, et jamais les questions de fond du projet de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'il est utile? Est-ce que l'aéroport actuel qui existe à Nantes-Atlantique, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Tous ces débats-là, on nous les a rejetés, on n'a jamais voulu les aborder sur le fond.
Est-ce que vous pensez que le fait que récemment il ait été décidé de geler des projets en matière de mobilité, de déplacement, comme par exemple de nouvelles lignes LGV, il y en a, le plan est fixé maintenant, donc est-ce que vous pensez que ça va vous donner pour vous aussi des arguments plus forts pour dire et pourquoi pas aussi Notre-Dame-des-Landes?
Effectivement, le projet de Notre-Dame-des-Landes n'apparaît pas dans les dernières décisions, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes persévérants. Et nous pouvons prendre en compte les fameuses commissions que le gouvernement Ayrault, puisque dans son bourbier, qui s'est mis tout seul, puisqu'il n'était pas obligé de faire une opération militaire et policière sur la zone en octobre et novembre, pour démolir des maisons, mettre dehors des habitants. Il n'était pas obligé.
Nous, on n'est pas sur place, là, donc on ne se rend pas bien compte de l'ambiance, du climat. On a en tête les violences, on peut dire, qu'il y a eu. C'était à l'automne, hein, vous avez ici parlé d'octobre, quand les forces de police sont intervenues pour évacuer les terres et les maisons, y compris les maisons provisoires qui avaient été installées, etc. Est-ce qu'il y a encore, ou est-ce qu'il est vrai qu'il y a cette tension telle qu'on nous l'a fait sentir dans les médias?
Nous avons vécu en tant que locaux une vraie surveillance policière, puisque nous étions contrôlés, il y avait 3 postes de police à l'entrée de la zone, avec contrôle de papier, fouille des voitures, quand même pendant 3 mois, plus 3 autres mois qui ont été un peu moins tendus. Mais quand même, ça a été effectivement pendant 6 mois. Donc l'issue de cette tension, puisque le résultat que le préfet voulait en 8 jours évacuer la zone, des éléments incontrôlables soi-disant, s'est terminée par un fiasco. Puisqu'aujourd'hui, à part les maisons en dur qui ont été détruites, qui malheureusement ne peuvent pas être reconstruites immédiatement, des cabanes ont été construites. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus de cabanes qu'il faudrait détruire. Mais aussi, il faut tenir compte d'un accord politique que nous avions arraché grâce à une mobilisation autour de la grève de la faim au moment des élections présidentielles, où que nous avons une promesse politique de la part du PS de ne pas faire d'expulsion au niveau des habitants qui étaient dans les maisons qui ont été achetées par le Conseil général depuis 1985, dont les occupants ont un titre d'occupation précaire, et aussi les exploitants agricoles qui ont un titre d'occupation précaire pour les terres. Donc, normalement, aujourd'hui, les recours juridiques qui sont concernés par cet accord politique nous donnent un air de respiration d'autour de 1 an et demi à 2 ans pour ne pas avoir d'expulsion.
Concrètement, pour parler de la situation des exploitants agricoles sur le secteur, ils continuent à exploiter ou est-ce qu'ils ont arrêté depuis longtemps ? C'est quoi leur situation ? Parce que la terre n'est pas encore utilisée en tant que chantier. Qu'est-ce qui se passe sur cette terre maintenant, en ce moment ?
Au moment de la forte tension, c'est que nous avions parallèlement les destructions de maisons, nous avions des fouilles préventives archéologiques. C'est-à-dire que c'est un bouleversement des sols agricoles sur toute leur surface qui devenait... Nous perdions une année culturelle claire et nette. Et grâce à cet accord politique, nous avons dit il y a 7 exploitations agricoles qui sont aux endroits les plus stratégiques en termes de démarrage des travaux. Pas question d'y toucher. Il y a un accord politique, vous ne devez pas le faire. Et aussi, vous ne devez pas continuer à démolir ni à expulser des habitants dans les maisons qui sont concernés par cet accord. Donc nous avons aujourd'hui environ une 20aine de maisons d'habitation qui sont concernées par l'aéroport. Nous avons 7 exploitants agricoles par cet accord politique. Donc il faut en prendre acte. Et c'est ça que nous avons réussi à faire comprendre. Et que devant l'enlisement militaire de la décision du gouvernement d'évacuer, la sagesse a été prise de stopper tous les travaux dits préparatoires dont font partie les fouilles archéologiques. Et que nous n'avions pas besoin de démolir des maisons, alors que les travaux, proprement dit, sont loin d'être démarrés, puisque nous avons le volet juridique de la loi sur l'eau qui a été retoqué par la commission d'expertise scientifique. Donc tout est à refaire sur le plan environnemental.
Donc en ce moment, vous êtes plutôt optimiste sur le fait que le projet soit bloqué ou alors vous avez toujours des très très gros doutes ou inquiétude.
Dernièrement, nous avons été confortés dans notre stratégie par le ministre des Transports, Cuvillier, puisqu'il a rappelé à l'ordre le préfet de Loire-Atlantique, disant qu'il n'était pas question de démarrer des travaux tant que les recommandations qui ont été émises par les 3 commissions, c'est-à-dire la commission de dialogue qui préconisait une nouvelle étude du PEB sur Nantes Atlantique, une étude du financement de l'optimisation de Nantes Atlantique actuelle, et aussi de faire une évaluation des surfaces réellement qui seraient économisées, récupérées à Nantes Atlantique par son déplacement. Parce qu'il y a toujours en débat le maintien ou non de la piste actuelle pour les besoins d'Airbus. Après, la commission agricole qui recommandait une économie des terres agricoles, c'est-à-dire qu'il demandait à Vinci de revoir la façon de construire les parkings, de parkings tout horizontal partir sur des parkings silos, et aussi de rapprocher le barreau routier qui était le plus près possible de la piste sud. Aujourd'hui, nous n'avons aucun élément là-dessus. En ce qui concerne le PEB, Cuvillier a été très clair dans sa lettre de recommandation au préfet, les études doivent être faites correctement. Donc nous, on en prend acte. Le CEDPA, qui est l'association des élus, et la CIPA, nous sommes de concert là-dessus pour jouer le jeu de la transparence totale de ces deux études, qui sont pour nous incontournables, puisque ce serait renier tout ce que nous avons dit depuis le débat public, puisque nous voulons une sérieuse étude sur Nantes Atlantique, sur une façon de revoir la situation locale et aussi d'élaborer les solutions alternatives. Et aussi, il ne faut pas oublier que la commission d'évaluation scientifique, nous la menons en parallèle avec le volet juridique européen, qui l'Europe a mis son nez dans l'affaire. L'Europe s'est engagée à venir visiter le Nantes Atlantique et le site de Notre-Dame-des-Landes autour de la fin septembre, début octobre, et à nous auditionner une nouvelle fois à la commission des pétitions pour comparer nos exigences par rapport aux réponses de la France, qui, entre parenthèses, la France s'est fait rappeler à l'ordre pour apporter des réponses et qu'elle a demandé un délai de supplément jusqu'au 3 juillet. Donc
on le voit bien, c'est un combat qui se livre non seulement sur le terrain, mais aussi dans toutes les arcanes des différentes juridictions ou des différents textes ou des différentes institutions. Ça, c'est un travail qui est amené par des militants bien informés. Mais il y a aussi la mobilisation populaire. Quelque part, on ne s'est pas privé de comparer un peu ce qui s'était passé avec le Larzac. On se souvient des mobilisations autour des années 74, voilà. Hein, et là, mobilisation populaire avec une occupation sur le terrain, etc. Avec ce qui se passe sur Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison qu'on ne peut pas s'empêcher de faire à un moment quand même?
Moi, je comprends que de la part notamment des médias de faire la comparaison avec ces deux affaires. Personnellement, moi je dirais qu'il faut faire attention. On ne peut pas comparer les époques à la sortie de 68 et à aujourd'hui en termes de militantisme sur la société en général. C'est totalement différent. Le terroir n'est pas le même non plus, mais m'empêche que nous sommes obligés de faire des parallèles, puisque quand on regarde dans le rétroviseur des actions que nous menons, sans faire du papier collé, nous nous inspirons un peu de ce qui se passe sur le Larzac.
Donc une action militante sur le terrain, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, c'est très varié finalement ce public qui est mobilisé par rapport à Notre-Dame-des-Landes, et c'est pas uniquement sur place, vous avez des comités aussi un peu partout en France, en Mayenne par exemple ici.
Oui, nous sommes ici à l'appel d'un collectif de Mayenne, nous avons aussi, comme nous sommes pas loin de l'Orne, des comités d'Alençon qui sont venus nous rejoindre ici. Disons que nous, aujourd'hui, c'est notre force. C'est qu'avec l'opération César, Jean-Marc Ayrault nous a apporté une publicité telle qu'aujourd'hui, la mobilisation sur Notre-Dame-des-Landes est devenue une affaire nationale et nous en sommes très fiers, mais aussi avec un poids supplémentaire dans la lutte. Nous n'avons pas de choix. Nous devons gagner à Notre-Dame-des-Landes. Nous avons un devoir vis-à-vis des mobilisations citoyennes qui sont derrière nous et qui sont avec nous. Donc nous devons faire tout pour que ce soit gagnable à Notre-Dame-des-Landes, puisque ça sera profitable aussi pour toutes les autres luttes, pour le terme de conservation de l'espace agricole, mais aussi en termes de renouvellement de la société, du virage énergétique et aussi d'une certaine justice sociale. N'oublions pas que nous sommes dans une crise durable économique.
Votre message est très clair, rien à ajouter derrière cela. C'était Julien Durand, donc porte-parole de la CIPA, qui était également lui-même ancien paysan sur ce secteur de Notre-Dame-des-Landes, présent ici à l'invitation du collectif mayennais, et qui nous expliquait un peu toutes ces données autour de Notre-Dame-des-Landes. Merci Julien Durand de votre intervention sur nos ondes.
Et merci à vous aussi de nous populariser en quelque sorte notre lutte.
Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquence Oscillée vous fait revivre tout l'été, Planète en fête. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.